Julien Talpin, tu as présenté une conférence qui s'intitulait « Pouvoir d'agir et travail social ». La première question qu'on peut se poser, c'est par rapport au terme. « Pouvoir d'agir », c'est la traduction de « empowerment », donc des termes, des concepts, des méthodes importées des États-Unis. Il y a aussi celui de « community organizing », on va essayer d'y revenir après. Est-ce que le fait qu'on importe ces choses-là des États-Unis signifie qu'il manquait quelque chose dans l'organisation du travail social en France?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aller regarder ce qui se passe à l'étranger, c'est toujours utile. Après, pas forcément pour importer terme à terme ce qui se passe, mais pour se donner des idées. Clairement, en France, en fait, les émeutes de 2005 ont quand même constitué une sorte de révélateur, en fait, des difficultés du travail social, mais toute une partie du secteur associatif, en fait, à offrir une voix, en fait, aux habitants des quartiers, même s'il s'est passé plein de trucs, et que les émeutes, en tant que telles, étaient peut-être davantage des révoltes que des émeutes, et qu'il y avait une forme de colère et de politisation ordinaire qui s'exprimait, mais il fallait structurer, en fait, ce qui s'était dit à ce moment-là. Et à ce moment-là, une série de chercheurs, de militants, on commençait à regarder du côté effectivement de l'Amérique du Nord, du Québec, des États-Unis, en se disant que là-bas, il y avait peut-être des trucs à aller regarder pour au moins deux raisons. C'est un, qu'il y avait une tradition de lutte de minorités en fait, dans les quartiers qui était hyper fort, de mouvements antiracistes notamment, qui était hyper fort et structuré et qui avait obtenu des victoires et qui pouvait nourrir nos réflexions ici en France. Et puis deux, le fait qu'il y a une autonomie au fond du mouvement social, du travail social aussi, dans ces pays-là, une moins grande emprise de l'État en fait, par rapport à la France, qui donnait des marges d'action et de liberté qu'on avait du mal à trouver en France. Quoi. Et donc, on a effectivement été chercher aux États-Unis des façons de faire, parce qu'on se rendait compte que ça avait produit des résultats intéressants en termes d'émancipation, de politisation des habitants des quartiers, puis d'amélioration de leurs conditions de vie. Quoi.
Alors, avant d'aller plus avant, est-ce qu'on peut essayer de définir à grands traits ce gros mot qu'est « community organizing » ?
Alors, « community organizing », au fond, la traduction la plus facile en français, ce serait « organisation communautaire ». Au fond, c'est des associations d'habitants, plus ou moins. C'est quand même assez proche de ce que seraient des centres sociaux en France, mais dans une perspective, on va dire, plus critique ou de lutte, en fait. C'est des sortes de contre-pouvoirs locaux. En fait, la meilleure traduction en France, ce serait « syndicalisme des quartiers populaires », en fait. C'est de dire que pour que la voix des habitants des quartiers soit entendue, il faut les organiser collectivement. Les organiser collectivement pour recueillir leurs problèmes, leurs paroles, mais aussi leurs solutions, et puis les mettre en mouvement collectivement pour améliorer leurs conditions de vie, que ce soit en termes d'emploi, de logement, de transport, d'éducation. Ils mettent en place des campagnes qui souvent passent par du rapport de force avec les institutions pour faire bouger les lignes pour les habitants des quartiers. Donc c'est créer des espaces, c'est quand même important d'avoir des espaces propres où les gens peuvent se réunir et se mobiliser ensemble.
Je vais essayer de réfléchir à partir de certains freins qu'on peut, nous, assez facilement constater ici. L'un des premiers que tu as évoqué, c'est la question de la résignation, c'est-à-dire le sentiment qu'on ne peut pas faire grand-chose pour changer les choses, et précisément, là, des rapports de domination.
Alors effectivement, moi, dans mon travail de terrain, notamment dans le Nord, en fait, je bosse beaucoup sur Roubaix, moi. C'est un truc qui ressort vachement, en fait. C'est-à-dire, moi, je fais beaucoup d'entretiens avec des habitants, etc., sur leur rapport à l'engagement, à la participation, au travail social. Et en fait, il y a ce truc de... on a bien le sentiment que la société dans laquelle on vit est injuste, mais on a aussi le sentiment que... On n'a pas beaucoup de leviers pour la transformer, quoi. Et donc, le rapport de force est tellement inégal que ça ne vaut pas le coup de se battre, de se mobiliser, de s'engager, de participer. La partie est perdue. Et donc ça, c'est quand même très, 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 très puissant. Et tout l'enjeu, en fait, de l'idée du pouvoir d'agir, et puis le community organizing, c'est une des façons de faire, c'est de dire que la clé, c'est d'essayer de briser cette résignation, et qu'une des façons de briser la résignation, c'est d'obtenir des victoires ici et maintenant. Et ce qui fait que la résignation, d'ailleurs, est si puissante, en fait, aujourd'hui en France, c'est que les mouvements sociaux ont accumulé des défaites successives depuis quand même pas mal de temps sur tout un tas de sujets. Et pas que les mouvements sociaux, un truc qui revient beaucoup quand je discute avec des habitants, y compris dans les quartiers, qui sont des gens qui votent plus, qui sont un peu dégoûtés par la politique et tout ça. Un truc qu'ils évoquent souvent, c'est 2005, le traité constitutionnel européen et le référendum, en fait, qui avait eu lieu là-dessus. Et l'idée qu'il y avait eu un référendum sur l'Europe, et puis, en fait, les gens avaient dit non, et leur parole n'a pas été entendue. Et donc, ils se disent, mais si même là, en fait, notre parole ne peut pas être entendue, c'est mort, quoi. Et donc, il faut briser la résignation en montrant que l'engagement, la participation, ça paye, et donc, il faut des petites victoires, ici et maintenant, que ce soit sur le logement, l'école, le transport, peu importe, mais qui montre que ça vaut le coup de passer du temps et de s'investir, quoi.
Un autre frein qu'on peut évoquer, c'est la question, en tout cas en France, du contrôle des associations ou des centres sociaux, et notamment un contrôle qui se fait par le financement de ces organisations. J'ai la question, donc tu peux relancer la réponse.
Donc sur la question financière. Donc une des conditions pour le développement du pouvoir d'agir, c'est effectivement l'autonomie. L'autonomie pour choisir les sujets sur lesquels on veut bosser, les questions, la façon de s'y prendre. Et l'autonomie, c'est aussi une question d'autonomie financière. Et clairement, moi, dans mes recherches en France, en fait, ressort que le manque d'autonomie financière, du travail social, des centres sociaux, des assos est un truc tout à fait déterminant, quoi. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux ont souvent le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et que s'ils se lancent dans des campagnes qui seraient un peu trop critiques, un peu trop vénères, qui viennent interpeller un peu trop fort les institutions, ils ont peur de perdre leur financement et potentiellement de perdre leur travail. Et donc ça, c'est vraiment un problème assez structurant, quoi. Aux États-Unis, ce problème se pose moins pour les assos, le community organizing que j'ai pu suivre, puisque une bonne partie de leur financement viennent de fondations privées. Et donc, qui ne sont pas les cibles qu'ils visent quand ils lancent des campagnes, des mobilisations, etc., quoi. Et donc, avoir ce financement qui vient de fondations leur assure cette autonomie, sachant qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de fondations. Il y a aussi des fondations très progressistes, y compris d'extrême-gauche, etc., qui vont financer des acteurs critiques, ce qui n'existe pas en France. Alors après, par rapport à cette question financière, moi, je ne suis pas forcément pour dire il faut absolument développer le système des fondations en France qui repose en fait sur les déductions fiscales. Et donc, ça vient d'une certaine façon saper les ressources de l'État-providence, etc. Donc, c'est problématique, quoi. Mais c'est de se dire en fait qu'il pourrait y avoir un autre fonctionnement de l'attribution des subventions et des financements pour les centres sociaux, le travail social, les assos, etc., quoi. Et on pourrait imaginer des modalités d'attribution où c'est pas simplement le maire tout seul ou la préfecture tout seul qui décide où va l'argent et de ne financer que les choses trop inoffensives ou qui vont pas être trop critiques, mais on pourrait imaginer des modalités d'attribution des subventions qui soient plus collectives, plus pluralistes, où il y ait par exemple des citoyens qui puissent donner leur avis, où ils puissent avoir des représentants du monde associatif, où ils puissent, je ne sais pas, moi même dans une municipalité, par exemple, avoir des représentants de l'opposition qui puissent avoir leur droit de regard, en fait, et qu'on sort d'un système qui est très autocratique, où au fond, vous êtes élu, vous pouvez faire ce que vous voulez de l'argent public. Je ne suis pas sûr qu'à un point de vue démocratique, surtout quand on voit les niveaux d'abstention aujourd'hui, ce soit optimal, quoi. Et donc, si on veut injecter de l'autonomie dans le travail social et la vie associative, il faut réfléchir effectivement aux modalités de financement public de ces actions, quoi.
Oui, parce que jusqu'ici, c'est un peu le point de conclusion de ton intervention, c'est qu'on en arrive à un assez important phénomène d'autocensure chez les travailleurs et travailleuses sociaux. Enfin, dans ces organisations-là, on a peur de faire quelque chose qui irait à l'encontre des pouvoirs ou des collectivités locales. Et du coup, on ne fait pas, quoi.
Oui, un exemple intéressant, c'était il y a quelques années dans un centre social à Jouer-les-Tours, donc près de Tours, où des habitants voulaient se mobiliser contre leur bailleur social par rapport à des histoires d'ascenseurs en panne et d'isolation de leur logement. Et donc, ils avaient commencé à faire une pétition, etc. C'était des usagers du centre social, etc. Et alors qu'au départ, les travailleurs sociaux avaient plutôt accompagné la démarche en mode développement du pouvoir d'agir, justement, en fait, assez vite, ils s'en sont retirés et ils ont plutôt contribué à démobiliser les habitants de peur que ça retombe sur le centre social et que le bailleur, qui était un des financeurs, en fait, du centre social, retire ses financements, quoi. Et donc, là, c'est pas tant que les travailleurs sociaux sont... d'une certaine façon dépolitisés ou n'ont pas envie d'aller sur ces trucs-là. C'est plutôt qu'en fait, ils ont peur pour leur boulot, la survie de leur structure, etc. Ils ont des contraintes un peu compliquées à gérer, quoi. Et donc, on voit bien comment ces modalités de financement, ça crée des injonctions contradictoires, et puis cette épée de Damoclès sur la tête des travailleurs sociaux, qui auraient bien envie d'accompagner et même de pousser les habitants à aller dans des formes de mobilisation qui permettent d'améliorer ici, maintenant, leurs conditions de vie, et en même temps, le faire, c'est risqué. Et en plus, ce n'est pas des risques qui sont juste théoriques, c'est qu'on a un certain nombre d'exemples de centres sociaux, d'assauts, etc., qui, quand ils se sont lancés dans des campagnes un peu trop critiques, quand elles ont interpellé un peu trop fortement les institutions, ont perdu leur financement, de salariés qui ont été placardisés, etc. Et donc, du coup, derrière, les gens y réfléchissent à deux fois. Moi, je dis souvent, il y a un cas de répression et derrière, ça entraîne 100 cas d'autocensure, en fait, où les gens, pour ne pas connaître le même sort, préfèrent organiser des matchs de foot et des clubs couture, quoi, plutôt que d'aller organiser des pétitions ou des manifs.
Et est-ce que importer justement des méthodes américaines, selon certaines modalités de développement du pouvoir d'agir, ça pourrait, selon certaines conditions, redévelopper des formes de conflictualité et plus globalement une repolitisation des organisations du travail social?
C'est carrément l'enjeu. C'est clair que là, l'idée, c'est un peu de se servir de l'étranger comme d'une ressource pour dire c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et en même temps, un truc qui peut paraître très étranger, ça vient des États-Unis, etc. En fait, quand on décrit comment ça se passe, en fait, ça renvoie à plein de traditions de mouvements sociaux, de luttes en France, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les luttes urbaines dans les années 70, dans les quartiers, etc. Au fond, ce qu'ils faisaient n'était pas si différent que ça de ce que j'ai pu observer ensuite aux États-Unis, quoi. Et donc, il ne s'agit pas forcément de complètement réinventer la poudre. La différence, peut-être, côté américain, c'est qu'en fait, eux, ils ont systématisé des méthodes, en fait, sur comment on fait pour aller chercher les gens, les faire sortir de chez eux et obtenir des victoires, briser la résignation. Systématiser des méthodes d'éduc pop qui soient conscientisantes, politisantes, ils sont très... Alors après, il y a un revers un peu à ce truc de méthode, mais au moins, il y a des outils sur lesquels on peut s'appuyer, en fait. Donc ça, je crois que c'est utile. Et en même temps, il ne s'agit pas de dire qu'il faut américaniser le travail social. Ce qu'il s'agit de dire, c'est qu'il faut repolitiser le travail social et utiliser toutes les références, les outils qui peuvent exister dans l'histoire du travail social ou des luttes en France, mais aussi à l'étranger. Il y a des trucs qui fonctionnent et donc ça avance en nous, quoi.
Ce que tu es en train de dire là, c'est pas vraiment le sens de ce qui se passe en France. Repolitiser le travail social, réintroduire des formes de conflictualité dans les organisations locales pour combattre des injustices, ça semble difficile dans le cadre actuel de renforcement du contrôle de l'État sur les associations, notamment avec, dernier exemple en date, et qui est un peu le paroxysme de la mise en place de ce contrôle, la loi confortant le respect des principes républicains.
Alors effectivement, le contexte n'est quand même pas génial. Et il y a une reprise en main très claire par l'État depuis quelques années, qu'on voit par la multiplication de cas de répression, d'assaut au niveau local, et là, qui va se traduire très concrètement par des formes de contrôle plus précis, plus direct, en fait, des assauts, via notamment le contrat d'engagement républicain. Les assauts devront, si elles veulent toucher des financements, reconnaître qu'elles défendent les principes de la République et qu'elles, au fond, ne contreviennent pas à l'ordre public. Si bien que là, on va avoir en fait une criminalisation inscrite dans le droit de toutes les méthodes de désobéissance civile, par exemple. Juste pour prendre un exemple, une asso comme ATTAC, par exemple, qui a, il y a quelques semaines, tagué en fait la vitrine de la Samaritaine à Paris, grand magasin, etc., pour dénoncer les conditions de travail. Il y a un certain nombre de problèmes qu'il y avait en interne sur leurs sous-traitants à l'étranger, etc. Ça peut être considéré comme non-respect à l'ordre public, typiquement, ça pourrait se traduire par des coupes de subventions, remboursement de subventions, etc. Donc on est effectivement dans un contexte qui est très compliqué, et donc il faut ruser, il faut faire preuve de stratégie, en fait, et aller chercher les alliés là où ils sont. Il y a encore dans les institutions des gens qui pensent que c'est pas forcément comme ça qu'on va aller dans la bonne direction. Il y a des endroits au niveau local où il y a des élus locaux qui sont engagés, où il y a moyen de faire des trucs. Il y a dans les institutions du travail social aussi, pareil, des volontés de faire autrement. Donc, il faut faire un peu le dos rond, parce qu'effectivement, le contexte, il est pas bon. Mais le risque de tout ça, c'est que ça finisse par péter, en fait. C'est-à-dire que là, il y a quand même effectivement une sorte de conflictualité latente qu'on essaye de mettre sur le tapis via toutes ces formes de contrôle social impulsées par l'État. Et en même temps, ça ne peut pas tenir, en fait, parce que les injustices, elles sont là, les inégalités, elles sont là, et les gens, ils n'en peuvent plus, quoi. Et donc, à un moment, ça va péter. Et donc, d'une certaine façon, toutes ces réflexions sur le pouvoir d'agir, l'organisation collective des habitants, c'est de se dire que la colère, en fait, il faut peut-être mieux qu'elle s'exprime par des luttes pour la justice sociale plutôt que simplement par des formes de violence interpersonnelle ou en brûlant des voitures, quoi.
Et pour conclure, j'aimerais que tu essayes de répondre assez synthétiquement à la question que tu as posée au début, qui est à quelles conditions le travail social est-il émancipateur ?
Alors effectivement, c'est une grande question, et moi j'essaye d'apporter en tout cas ma brique à cette grande question. La condition, c'est l'autonomie du travail social, notamment l'autonomie institutionnelle et financière. Et donc, c'est d'accepter que le travail social contribue à la mise en forme de la conflictualité qui traverse la société. C'est de dire qu'il y a des conflits, et c'est comme ça que fonctionne le monde social. Il ne faut pas les nier. Et que le travail social, son rôle, c'est pas de les mettre sous le tapis et de les pacifier, c'est de les organiser collectivement pour que cette conflictualité, elle trouve des formes et des débouchés, en fait. Et donc ça passe par une autonomie financière, ça suppose un rapport aux institutions qui ne soit pas un rapport de vassalité, ça suppose aussi de bouger les méthodes du travail social lui-même, en fait. Ça veut dire qu'il y a une tradition un peu paternaliste, en fait, dans le travail social, et où on voyait le travailleur social au-dessus des gens qui l'accompagnent. Peut-être que si on avait des relations plus horizontales et plus symétriques, où au fond, dans un contexte qui n'est pas facile, on va essayer de travailler ensemble plutôt que l'un au-dessus de l'autre pour créer des mobilisations et infléchir les rapports de force, ça peut jouer. Donc il faut à la fois jouer en externe sur le rapport avec les institutions et en interne sur le travail social. Je pense qu'il y a des choses à bouger. Et c'est déjà le cas. Et donc, il y a, on l'a vu dans les échanges qu'il y a eu aujourd'hui dans le cadre de la conférence, des initiatives locales et puis encore un militantisme qui est très fort chez les travailleurs sociaux sur lesquels on peut s'appuyer, quoi.